Vous êtes sur RTL.
Il est 12h30.
RTL.
On était nés sur des ruines. The times were changing.
Le journal inattendu.
Va savoir quand elle nous quitte. L'insouciance. Va trouver la date limite de l'enfance.
12h30, 13h30.
On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs.
Maxime Le Forestier est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Juste des jours meilleurs.
Bonjour Maxime Le Forestier.
Bonjour.
Et merci de passer cette heure avec nous pour ce journal inattendu alors que vient de paraître ou ne pas être votre 16e album pour lequel votre fils Arthur vous a épaulé. J'ai envie de dire 10 titres sans fioritures qui vont à l'essentiel. Des chansons sociétales à tendance politique. Jouer avec l'instrument de votre vie. La 6 cordes, la guitare, parfois à 12 cordes d'ailleurs peut-être, je ne sais pas, c'est 6 cordes ou 12 cordes?
Il y a très peu de 12 cordes dans cet album, il y en a mais il y en a très peu et c'est Manu Galvin qui la joue.
Alors on va s'arrêter sur cet album, le savourer, parler de la tournée qui commencera début octobre mais aussi partager votre regard sur ces 47 ans de carrière. Depuis ce premier album que s'était approprié toute une génération dans les années 70. Mais on va aussi découvrir vos engagements, votre admiration pour le docteur Guy Bernard Cadière, un chirurgien belge qui se rend régulièrement à l'hôpital de Panzi au Congo pour opérer et réparer les femmes violées avec, évidemment, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Et puis votre invité, que nous sommes très fiers d'accueillir également, sera... Eh bien, votre ami, votre voisin du Loir-et-Cher, Alain Souchon, qui arrivera après 13h pour la deuxième partie de l'émission. Mais commençons par un exercice. Alors, je ne sais pas, je me suis dit que c'était pas forcément votre tasse de thé, cher Maxime, vous qui n'aimez rien moins que de vous mettre en avant. Mais c'est le principe de l'émission, il faut vous tirer le portrait. Alors, c'est à vous.
J'ai rencontré Yvonne Blot, qui enseignait le violon aux enfants. J'ai rencontré Monsieur Noblant, qui enseignait le français et le latin au lycée Condorcet. J'ai rencontré Moustaki. Il m'a montré qu'on pouvait être libre de chanter, d'aimer, de vivre. J'ai rencontré Serge Reggiani. En prenant une de mes chansons quand j'avais 20 ans, il m'a désigné comme un auteur respectable. J'ai rencontré l'armée. Ça m'a pas plu. J'ai rencontré John Baez. Elle a chanté parachutiste, elle m'a fait pleurer. J'ai rencontré Brassens. D'abord les chansons, puis le bonhomme. J'ai pas vu la différence. J'ai rencontré Nuno Oliveira et ses chevaux. Ils m'ont enseigné l'épaule en dedans, l'appuyer, le piaffer, le passage, et surtout l'état d'esprit qu'il faut pour les obtenir. J'ai rencontré Luc Alexandre. Il m'a donné l'adresse de la Maison Bleue. J'ai rencontré le Brésil. J'ai rencontré mon frère, Jérôme. Je savais pas qu'il existait quand j'ai écrit ma chanson. Mais comme il est anglais, il a pris ça avec humour. J'ai rencontré une maison dans le Loir-et-Cher qui m'accueille quand je ne veux plus voir personne. J'ai rencontré le succès. J'ai pas reconnu tout de suite. J'ai rencontré ma femme.
C'est magnifique, une vie de rencontre. Maxime Le Forestier, rédacteur en chef du journal Inattendu, jusqu'à 13h30. On commence par les infos avec l'actualité de ce samedi 29 juin. La déception des Bleus et des supporters de l'équipe de France de foot féminine. Défaite sportive, mais succès d'image. Près de 12 millions de téléspectateurs hier soir. Une nouvelle montée de tension à l'hôpital de Reims après l'arrêt de la Cour de cassation sur le cas Vincent Lambert qui autorise de nouveau l'arrêt des soins. Les parents annoncent qu'ils déposeront une plainte pour meurtre avec préméditation. Le G20 à Osaka au Japon, Donald Trump calme le jeu dans la guerre commerciale avec la Chine. Et puis un homme en garde à vue pour incendie volontaire dans le Gard hier après-midi. 50 feux au total, 620 hectares, 11 maisons brûlées. Les risques sont bien sûr très importants en raison de cette canicule qui continue, Valérie Quintin.
Oui, ça continue, mais alors pas dans le sud-est. Il fera un petit peu moins chaud aujourd'hui. Ça a grimpé jusqu'à 45 hier. Ce sera maximum 38-39 aujourd'hui. Bon, je ne sais pas que ce sera très très différent au niveau du ressenti, mais il n'empêche que ce sera moins chaud. Température les plus basses cet après-midi pour Biarritz et pour Brest avec 23 degrés. Comptez un bon 34 à Lille, 35 degrés sur Rennes, 36 à Nancy et Marseille, 37 degrés à Caen, à Paris, à Lyon, 39 à Limoges et Toulouse et 40 degrés au Mans et à Tours. Tout cela évidemment avec un soleil de plomb toute la journée. Il y a quand même un petit voile nuageux assez dense sur la façade atlantique. Et puis on attend des orages aussi ce soir dans les Alpes et rien de plus.
Merci Valérie. Vous pouvez aller déjeuner parce que tout à l'heure, à 13h, Monsieur Météo, ce sera vous.
Avec plaisir.
Le journal inattendu sur RTL.
Et vous allez d'ailleurs nous annoncer des températures extrêmes. Hier, le record absolu en France a été battu, 45,9 degrés dans le département du Gard. Département frappé par une soixantaine d'incendies qui ont brûlé plus de 600 hectares. 11 maisons sont parties en fumée. Un homme suspecté d'un incendie volontaire a d'ailleurs été interpellé dans l'après-midi, âgé d'une vingtaine d'années. Il a été hospitalisé en raison de son état psychiatrique. Sur le terrain, les pompiers sont bien sûr mobilisés pour faire face à tout départ de feu. Vous êtes à Garon dans le Gard, Aline Thibal.
Au milieu des pins des cyprès calcinés, à Gard, Jonathan et Léa contemplent un état de choc, ce qui reste de leur vie. Un amas de cendres, le feu a englouti leur mobil-home. Évacué en urgence, Myriam, elle, a perdu son cabanon. Sa maison a été léchée par les flammes, mais elle relativise aussitôt.
Le feu était tout autour, je veux dire, c'était impressionnant. À un moment, c'est là, et d'un seul coup, ça a sauté, c'est sur l'autre maison. L'évacuation, ça s'est faite dans la précipitation. La peur, voilà, moi, ma fille était en panique. On n'y voyait pas que ça aurait pu être encore plus grave. Et du matériel, ça se reconstruit, tu as envie, on sauve nos peaux.
Et c'est grâce, dit-elle, aux dizaines de pompiers mobilisés. Des pompiers qui continuent inlassablement à l'heure actuelle d'arroser, de noyer les derniers petits foyers pour éviter toute reprise, appuyés par deux canadaires. La situation est totalement maîtrisée, confie le commandant Éric Agrigné des pompiers du Gard. Mais la vigilance est extrême.
Maintien de la mobilisation, maintien de la vigilance, rappel des bonnes pratiques, de l'interdiction d'emploi du feu, interdiction totale. Et puis, des gestes anodins tels que jeter un mégot par sa fenêtre peut générer un départ de feu et donc une catastrophe derrière.
Un message ici martelé par l'ensemble des pompiers.
Aline Thibal à Garon dans le sud du Gard. Et puis au lendemain de cette journée de canicule exceptionnelle marquée donc par des records de température, Greenpeace France continue de bloquer un cargo de soja à 7 dans l'Hérault. Pour l'organisation écologiste, derrière le soja se cache en fait la déforestation. Et ces militants ont peint sur la coque un message adressé au gouvernement, 45 degrés, mais zéro engagement. Tiens, en parlant d'engagement, est-ce que vous êtes engagé sur l'écologie? Alors, il y a un morceau, il y en a même plusieurs dans cet album qui font référence à l'écologie, notamment ça déborde, par exemple.
À la nature. J'ai écrit tout cet album à la campagne, donc ouais. J'étais un peu branché nature. Oui, ça fait longtemps qu'on parle comme un arbre dans la ville, c'était déjà un peu ça, mais à cette époque, on était des utopistes irresponsables, des pacifistes bêlants, et tout le monde se foutait de notre gueule. Maintenant, au moins, c'est pris au sérieux. Je sais pas si ça va suffire, mais je considère ça comme un progrès puisque j'ai décidé d'être optimiste.
Puis une information qui peut peut-être aussi vous faire réagir, c'est ce qui s'est passé en Italie où le navire Sea-Watch de l'organisation humanitaire du même nom a accosté cette nuit de force à Lampedusa pour faire débarquer 40 migrants qui étaient bloqués à bord depuis 17 jours. La capitaine du navire, qui est une Allemande de 31 ans, a été arrêtée. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Le bateau a été placé sous séquestre et le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a tweeté « Mission accomplie ».
Oui, il aurait pu mettre ça sous la photo du papa et du père et de sa petite fille qui se sont noyés dans le Rio Grande. C'est un peu pareil.
Allez, on marque une pause, Maxime Leforestier, dans ce journal inattendu. Dans un instant, l'actualité, c'est aussi l'affaire Vincent Lambert, puisqu'on se dirige vers un nouvel arrêt des traitements qu'ils maintiennent en vie. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Vous.com.
Le journal inattendu sur RTL avec Maxime Leforestier et Vincent Parisot.
La Cour de cassation a donc ouvert la voie hier à un nouvel arrêt des traitements qui maintiennent en vie Vincent Lambert depuis 10 ans. Elle a cassé la décision de la Cour d'appel qui avait provoqué il y a quelques semaines leur reprise sans renvoi devant une autre juridiction. Ça veut dire que la procédure prévue peut être lancée à tout moment. Les avocats des parents ont immédiatement réagi. Ils annoncent qu'ils porteront plainte pour meurtre avec préméditation contre le docteur Vincent Sanchez. C'est le chef du service des soins palliatifs de l'hôpital de Reims. Désormais, c'est lui la cible des parents de Vincent Lambert, qui sont des catholiques intégristes. Cet homme, donc, ce docteur Sanchez, estime que leur fils fait l'objet d'un acharnement thérapeutique déraisonnable. Samuel Goldschmidt.
Le chef du service des soins palliatifs et de l'unité des cérébraux lésés à l'hôpital de Reims est un spécialiste de gériatrie, titulaire d'un diplôme universitaire en soins palliatifs. Inscrit à l'ordre des médecins de Moselle de 2002 à 2017, le docteur Sanchez a exercé à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, où il avait accueilli l'ex-député Jean Leonetti, l'auteur des lois sur la fin de vie. Arrivé à Reims après sa carrière lorraine, il est celui qui a conduit la quatrième procédure collégiale, qui a conclu le 8 avril 2018 que le maintien en vie de Vincent Lambert était une obstination déraisonnable et qu'il fallait cesser de s'acharner. À 50 ans, il est décrit par les proches de Vincent Lambert comme très pondéré, rationnel, légaliste. Il applique ce que la justice a validé. Il est très secret aussi, aucune intervention dans les médias. Et depuis qu'il est impliqué dans la gestion du cas Vincent Lambert, il a fermé les écoutilles, comme le décrit un membre de la famille. Seul moyen sans doute de supporter les énormes pressions autour de cette affaire.
Samuel Goldschmidt, un commentaire, Maxime Le Forestier, que vous inspire cette affaire, l'attitude des parents?
Prise d'otage. Bon, je ne peux pas me prononcer sur le cas de Vincent Lambert, mais je le dis solennellement, si moi, un jour, je suis dans cet état-là, faites-moi un gros shoot de morphine et laissez-moi partir.
Non, eh ben, c'est enregistré en plus, voilà. Hein, Maxime, on pourra le ressortir. Et puis du football, voilà, c'est fini. Hein. L'équipe de France féminine s'est inclinée hier soir 2-1 face aux États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde. La gueule de bois, titre l'équipe ce matin pour souligner la déception, l'échec sportif que représente cette élimination. Mais le Parisien titre « Merci mesdames ». Car derrière cette défaite, il y a quand même une victoire, notamment médiatique. 11 800 000 téléspectateurs ont regardé le match hier. Vous en étiez, Maxime ?
J'ai regardé un bout, oui. Bon. J'ai pas tout vu. J'ai regardé la première mi-temps et la fin.
En tout cas, les Bleus ont perdu, ça, je vous l'apprends pas.
Mais elles ont perdu dignement, je trouve qu'elles ont attaqué très bien. Elles ont eu plus de corners que les autres. Non, je trouve qu'elles se sont bien comportées.
Mais puis bon. Alors, elles ont perdu sur le terrain, mais elles ont gagné le cœur des Français. C'est ce qu'on va voir.
Ça, c'est bien possible. Oui.
Clément Barguin.
Ce n'est pas le score que Dounia retiendra du match d'hier soir, mais cette équipe de France féminine qui l'a fait rêver pendant presque 3 semaines.
Franchement, ils ont du potentiel, énormément de potentiel. Ouais. Ils défendent bien, ils attaquent bien. Franchement, une belle équipe. Ils sont soudés entre eux, ils parlent, ils communiquent, ce qu'il faut. Quoi. C'est pas une victoire, ils n'ont pas soulevé la coupe, mais quand même, on peut les féliciter. Quoi. Le parcours qu'ils ont fait, les efforts et tout. C'était une très très belle équipe. Ouais.
À chacune de leurs rencontres, les Bleus ont su fédérer 10 millions de téléspectateurs en moyenne. Eric n'a pas manqué un seul match.
Le charisme qu'elle dégageait, la générosité, l'affrontement, super coup de chapeau.
Wendy Renard, Amandine Henry, Gaëtan Tinet, des noms qui resteront marqués dans l'esprit des Français. Sidonie en est persuadée.
Les petites filles, là, vont vouloir s'inscrire. Ça leur donne un modèle, donc je pense que c'est important de montrer que les femmes, elles peuvent aussi faire du foot.
Tous ces supporters attendent déjà le retour des Bleus avec impatience. Prochain tournoi d'envergure en 2021, si elles se qualifient pour l'Euro.
Reportage Clément Barguin. Aujourd'hui, les deux derniers quarts de finale, Italie-Pays-Bas à 15h à Valenciennes. On annonce au moins 33 degrés à l'ombre. Et puis Allemagne-Suède à 18h30 à Rennes.
Le journal inattendu de Maxime Le Forestier avec Vincent Parisot sur RTL.
Paraître ou ne pas être, oulala, la question que voilà. Paraître ou ne pas être, la question fait débat. On invite à comparaître ceux qui veulent parler de ça. Et pour bien les reconnaître, on a mis des caméras. Ceux qui parlent pour paraître, apparemment sont tous là. Ceux qui préfèrent ne pas être, évidemment n'y sont pas.
Voilà, paraître ou ne pas être, c'est l'album. Cette chanson, c'est la 5e de cet album, Paraître. J'ai envie de dire question shakespearienne, paraître ou ne pas être. On peut se dire que ce texte a plusieurs sens, hein, comme le verbe paraître a tout plusieurs
fait,
sens.
Oui. Tout à fait, j'adore ça.
Mais quand même, vous dénoncez ceux qui parlent pour paraître, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui
oui,
sur,
mais
dans
en
les
même
studios
temps,
de télé.
En même temps, si on les voit pas,
ils n'existent pas.
Ils n'ont pas d'amis, donc... C'est une question sans réponse. Hein. Bon, moi, je résous ça par l'alternance. En ce moment, je suis en train de paraître, je me montre beaucoup, etc. Mais quand j'écris, je disparais complètement.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que sortir un disque pour un artiste comme vous, c'est aussi... bah, une manière d'exister, tout simplement.
Mais tout à fait, oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne porte de jugement sur rien là-dessus. Je pose des questions, c'est tout.
Ouais. Même si j'imagine que ceux qui parlent beaucoup à tort et à travers sans vraiment savoir, c'est ça doit vous énerver.
C'est pas de parler à tort et à travers, c'est, ouais. ça dépend de ce qu'ils disent.
Oui, oui. Et de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Vous en parlez, tiens, je pense que vous parlez des réseaux sociaux, vous allez nous le dire, dans un autre titre, Les ronds dans l'air.
Les paroles ne s'envolent plus. Dommage. Sitôt prononcées, elles restent coincées dans un nuage. Promesses éludées, je t'aime obsolète. Lapsus boulette, quatre vérités. Rien ne se perd, rien ne s'oublie. Sont infinis.
Les ronds dans l'air, les paroles ne s'envolent plus, dommage. C'est une forme de légèreté finalement qui s'est évaporée avec Internet.
Tout à fait, on ne peut plus se permettre de déclamer des conneries dans un bistrot un soir de cuite sans risquer de se retrouver après accusé d'avoir dit des conneries ouais. sur Internet exprès. C'est peut-être ça qui me déplaît. Bon, maintenant, les conneries, je les dis chez moi.
Oui. Vous en dites beaucoup ?
Oui, c'est pour ça que je ne tweete pas, c'est pour ça.
Ah oui, vous ne tweetez pas parce que vous avez peur que ça vous revienne comme un boomerang ?
Non, c'est parce que je ne suis pas sûr que ce que je pense dans l'instant soit utile au monde entier.
Ouais.
Et je préfère attendre, réfléchir, prendre des notes, et puis tous les 5 ans sortir une dizaine de chansons, c'est ma façon de communiquer.
Alors, il y en a 10 nouvelles chansons hein, qui arrivent dans cet album, et puis il y en a une que j'aime particulièrement, c'est celle-ci.
C'est comme un drôle de cadeau, un chef-d'œuvre qu'on lit sans en comprendre un mot. Va savoir quand elle nous quitte, l'insouciance. Va trouver la date limite.
Date limite, c'est d'ailleurs le titre qui ouvre cet album, la date limite de l'enfance. C'est à quel âge la date limite de l'enfance ? Et elle vous a quitté quand, l'insouciance ?
Eh ben, non, il y a une part d'insouciance qui vous quitte, je pense, à la naissance de votre premier enfant.
Ouais.
Ça, c'est dès que le nombril se déplace un peu.
D'ailleurs, vous avez quand même souvent parlé de cette frontière entre l'innocence de l'enfance et l'éclosion de la sexualité, on va dire comme ça. Je pense à l'éducation sentimentale, ouais. À Fontenay-aux-Roses, le moment où on bascule dans un autre monde, la sexualité ou l'enfant qui vient, c'est quelque chose qui fait qu'on est moins insouciant.
Oui, peut-être, mais la date limite, je ne sais pas quand elle est, moi. Et d'ailleurs, plus on vieillit, plus on perd la vue, et donc plus la date limite s'efface, on n'arrive plus à la lire.
Mais vous êtes encore insouciant aujourd'hui ?
Ça m'arrive, oui, ça m'arrive énormément.
Et c'est votre surtout fils peut-être enfants, qui vous le dit.
Les enfants sont grands maintenant, ouais. Donc ils peuvent me prendre en charge. Ouais.
Il y a dans cet album une très jolie chanson sur la France, la vieille dame qui a peur qu'on la déleste de 3 bijoux qui lui restent. Et puis il y a une chanson également politique, ça s'appelle Le Grand Connard.
Il a la volonté d'en faire qualité première chez les compétiteurs. Il a tous les marqueurs, les traits de caractère, les winners. Il a ses coachs, ses entraîneurs, des sponsors, il espère. Il veut surfer sur les hauteurs, laisser une trace sur terre. Il vise la médaille la plus convoitée, celle du plus grand connard que la terre ait jamais portée.
Alors, qui sont les grands connards que vous décrivez là? Des noms. On veut des noms. Non, mais je plaisante.
Ah, on peut nommer des candidats.
Oui.
Mais le concours
n'a pas eu lieu.
Le
titre du plus grand connard n'a pas encore été décerné. Ouais.
Et je pense qu'on en a tous dans notre entourage ou dans notre voisinage. On a tous un modèle comme ça. C'est pour ça que cette chanson a pardon, mais a quelque chose d'universel.
Oui, effectivement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière.
C'est transversal, ouais. C'est dans tous les milieux. La connerie est vraiment est vraiment très très étendue
et très bien partagée partout dans le monde. Ces chansons du dernier album et les autres, vous allez les présenter en tournée.
Oui.
Ce sera à partir du 3 octobre à Rennes. Vous serez du 14 au 16 novembre au Casino de Paris, avec votre fils à vos côtés également. Il a beaucoup participé à cet album.
Il a été très important dans cet album. Il voulait qu'il existe.
Ah oui, c'est lui à l'origine qui...
Ouais. Il avait vraiment envie que d'entendre des nouvelles chansons, comme moi j'ai envie d'entendre les siennes, les nouvelles, hein, mais on a cette relation. Et il voyait que j'étais un peu, je me laissais aller, quoi. J'attendais que les chansons viennent, et lui, il m'a poussé. Il a été chercher dans mon disque dur s'il n'y avait pas des textes. Il en a arrangé un avec des bribes. Il a fait une chanson qui s'appelle Les filles amoureuses.
Formidable, d'ailleurs. En gros, Les filles amoureuses, vous expliquez que pourquoi elles tombent amoureuses de ces mecs-là, quoi.
Ça vous est jamais arrivé de voir une fille, enfin une fille, votre fille ou votre nièce, et de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce con? Ça nous est arrivé à tous. Hein.
Alors évidemment, la tournée à partir du 3 octobre à Rennes, et pour les Parisiens, le Casino du 14 au 16 novembre, votre fils sera avec vous sur scène. On marque une courte pause et on revient sur votre carrière, Maxime Le Forestier. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Maxime Le Forestier et Vincent Parisot. Free.fr. Le journal inattendu sur RTL. Avec Maxime Le Forestier et Vincent Parisot.
C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois.
Maxime Le Forestier, 47 ans de carrière, mais en fait 50 ans si l'on tient compte des deux premiers 45 tours sortis en 1969, et notamment La Petite Fugue, inspirée de Jean-Sébastien Bach, morceau que de nombreux collégiens ont appris en cours de musique. Je crois que vous l'aviez d'ailleurs réenregistré en 95, hein, pour oui, l'album Passer ma route. Ça nous rappelle votre formation classique, solfège, violon, avec vos sœurs aînées, Anne, puis bien sûr Catherine, oui, qui vous a ensuite accompagné à la guitare. J'ai envie de dire que vous êtes passé à la guitare, pourquoi? Parce qu'en cette fin des années 60, la guitare, c'était quand même plus cool que le violon.
Oui, parce que c'était un instrument dont j'avais le sentiment, peut-être à tort d'ailleurs, qu'on pouvait l'apprendre tout seul, que c'était pas la peine de passer par un conservatoire.
Et pourquoi peut-être à tort? Parce que beaucoup de guitaristes ont appris la guitare seule.
Oui, mais il y a des moments où je regrette de ne pas avoir travaillé une technique plus pointue quand j'étais jeune. Mais bon, j'ai appris la guitare avec les chansons de Brassens, ça va.
Oui, bien sûr. Le premier album, on va s'arrêter dessus, car bien peu d'artistes ont la chance d'écrire une fois dans leur vie l'album d'une génération. Si bien que dans ces années 70, j'ai envie de dire, ce disque, il était un peu partout, dans toutes les chambres d'ados, à côté de Simon & Garfunkel ou de Cat Stevens. 1 million d'exemplaires vendus, faut imaginer aujourd'hui ce que ça représente, et une succession de titres qui ont traversé le temps.
Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble, comme un arbre dans la vie. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris comme un arbre dans la ville. Mourir, mourir. Comme on s'endort vers la nique à la mort. C'est une maison bleue
accroché à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé.
Maxime Le Forestier, cet album 47 ans après, j'imagine que vous en êtes toujours aussi fier, mais est-ce que vous regrettez que finalement il ait un peu occulté ce qui a suivi pendant quelques années, parce que tout le monde se référait à cet album magique?
Je l'ai regretté jusqu'à la sortie de Né quelque part. À partir du moment où les gens ont accroché, ont aimé Né quelque part, j'ai considéré cet album comme un privilège.
Alors qu'avant, c'était presque un boulet.
Ah ben c'est forcément, oui. Vous sortez des disques et puis tout le monde vous dit ah non, c'est San Francisco qui me plaît, ou c'est La Rouille, ou c'est tout ça. Alors que moi, j'avais le sentiment de faire des bons albums. Mais bon, ça s'est débloqué à la fin des années 80.
Alors tiens, une question de Philippe Glohagen, le patron du Guide du Routard, qui était ici la semaine dernière, et voilà ce qu'il voulait vous demander.
Bonjour Maxime, c'est Philippe Glohagen du Guide du Routard. J'ai une question à te poser. Es-tu retourné voir la Maison Bleue à San Francisco, dans le quartier de Castro? Parce que moi, j'y suis allé en 75 pour la première fois, grâce à ta magnifique chanson.
C'est vrai que vous avez dû faire profiter le tourisme à San Francisco dans ce quartier. Je pense que pas mal de gens y sont allés pour la voir, cette maison.
Ah oui, surtout maintenant. Ouais. J'y suis retourné, j'y étais en 71, j'y suis retourné en 76. Là, ça avait complètement changé. Le quartier de Castro était devenu un quartier chic.
Ouais.
Et il n'était plus que deux à la Maison Bleue, et ils avaient fait pas mal d'argent avec la nourriture bio. Et puis après, j'ai oublié où elle était. Chaque fois qu'un copain était à San Francisco, me téléphonait en me disant l'adresse où est la Maison Bleue, je disais adossé à la colline, parce que j'avais pas d'adresse. Et il y a quelques années, un journaliste du San Francisco Chronicle a cherché cette maison. Il a appelé une amie journaliste qui m'a appelé. C'est tombé au moment où je rangeais des cartons, des vieux cartons dans lesquels il y avait des carnets. Ouais. Et j'ai retrouvé l'adresse de la Maison Bleue. Donc il est allé la voir, il a photographié, elle était devenue verte. Donc on a décidé de la repeindre. Donc j'y suis retourné pour donner le dernier coup de peinture. Et maintenant il y a énormément de gens qui passent devant et qui se font photographier, à la grande surprise des deux femmes qui habitent cette maison maintenant.
La Maison Bleue, évidemment, de San Francisco. On marque une pause, il est 13h, dans un instant rappel des titres et puis votre invité Maxime Le Forestier, un certain Alain Souchon.
Attendez-moi.
Le journal inattendu sur RTL, avec Maxime Le Forestier et Vincent Parisot.
Il est 13h01.
Le journal inattendu de Maxime Le Forestier.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et l'actualité de ce samedi 29 juin, c'est la déception des Bleus et des supporters de l'équipe de France de foot féminine. Éliminés de but 1 par les États-Unis, mondial terminé pour les joueuses de Corinne Diacre, qui en raison de cet échec n'iront pas non plus aux Jeux Olympiques. Défaite sportive, mais succès d'image. Près de 12 millions de téléspectateurs hier soir sur TF1 et Canal+. Une nouvelle montée de tension à l'hôpital de Reims après l'arrêt de la Cour de cassation sur le cas Vincent Lambert, qui ouvre la voie à un nouvel arrêt des soins. Les parents annoncent que si cette procédure est reprise, ils déposeront une plainte pour meurtre avec préméditation. Le G20 à Osaka au Japon, Donald Trump calme le jeu dans la guerre commerciale avec la Chine. Par ailleurs, il propose à Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, une rencontre dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Ce serait une première. Au G20, toujours, Emmanuel Macron a obtenu qu'à part les États-Unis, les 19 autres pays réaffirment leur engagement pour l'accord de Paris sur le climat. Un homme en garde à vue pour incendie volontaire dans le Gard hier après-midi. 50 feux enregistrés au total dans ce département, 620 hectares, 11 maisons brûlées. Les risques sont bien sûr très importants en raison de la canicule. Et bien justement, ça nous amène à parler du temps, de cette chaleur. C'est vous, monsieur Météo, Maxime Le Forestier.
Avec plaisir. Donc, soleil de plomb partout en France cet après-midi. Un petit voile nuageux un peu plus dense vers l'Atlantique et le nord de la Bretagne. On notera au fil des heures une dégradation orageuse, ça fallait s'y attendre, dans les Alpes, avec potentiellement de gros orages ce soir. Les températures s'échelonneront de 23 à 41 degrés entre Brest et Montluçon. Mmh. Il fera 36 à Paris, mais aussi à Auchan et à Périgny, dans le Loir-et-Cher.
Combien à Auchan et Périgny?
Il fera 36.
Bon,
voilà. C'est chez moi.
Bah voilà, bah vous l'avez entendu, Alain Souchon vient d'arriver. C'est pour ça qu'on a donné la météo à Auchan. Ah bah c'est pas plaisir. Un hasard.
J'adore Auchan.
Bah ouais, j'imagine, vous y vivez. Bon, là, vous êtes arrivé alors que je vous ai même pas annoncé.
Pardon.
Vous l'avez compris, Alain Souchon est l'invité de Maxime Le Forestier.
Ma mère dansait dans les bars, imitant Jean Harlow.
Le journal inattendu de Maxime Le Forestier. Et son invité, Alain Souchon.
Mon père lançait les poignards au cirque à Buffalo. Puis un jour on m'a dit go west, alors j'ai pédalé.
Maxime Le Forestier, Alain Souchon en duo dans Hollywood de David McNeil.
Vous jouez bien de la guitare, honnêtement, je suis professionnel, je peux vous dire, vous jouez bien.
Ah voilà, Alain Souchon qui vous dit, vous jouez bien de la guitare, hein, Maxime Le Forestier. Dites-nous, Maxime, pourquoi vous avez demandé à Alain Souchon d'être votre invité dans cette émission?
Bah pour annoncer une grande nouvelle.
Ah. Une naissance?
Attends.
Presque.
Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai peur.
Oui. Alain Souchon a fini d'écrire son album.
Ah, formidable. Ça, on va en parler. On a prévu d'en parler dans l'émission parce que je crois qu'effectivement, on a un titre qui devrait arriver à la fin de l'été, un album dans la foulée et une tournée.
Oui.
Si c'est ça. Vous serez d'ailleurs en tournée, donc en même temps.
En même temps.
Ça va être... on va se laisser.
Ce qui est réjouissant parce que comme ça, quand on va faire de la promo, je pense, à un certain moment, on va se croiser.
Oui, et puis on pourra se laisser des mots sur les livreurs des hôtels.
Voilà.
Alors on va parler de cet album tout à l'heure, évidemment, Alain Souchon, mais parlons quand même de votre histoire qui doit remonter, j'imagine, à la fin des années 70, lorsque vous arrivez,
peut-être même au milieu.
Oui, peut-être même au milieu. Bon, à l'époque, Maxime Le Forestier est déjà... à l'époque, Maxime Le Forestier est déjà très connu.
Bah, évidemment,
il a fait San Francisco.
C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours eu... deux milieux de la chanson en France, c'est-à-dire un milieu avec Mike Brandt, Claude François, des grands professionnels et qui faisaient
les carpentiers,
et puis
voilà.
Un monde un petit peu plus souterrain avec des tas de gens qui faisaient des chansons. Alors moi, j'étais plutôt dans ce là-dedans que j'évoluais. Et dans ce milieu, il y avait un mot magique pour montrer qu'on était quand même des gens quand même avec du talent. On disait Maxime. C'est-à-dire, hier, j'ai vu Maxime.
Ah oui, on disait pas Maxime Le Forestier.
Maxime m'a dit parce que Maxime est quand même un prénom peu courant.
Oui, d'ailleurs, c'est pas votre prénom d'état civil.
Dans les années 70, de dire, j'ai vu Maxime hier, il m'a dit que ma chanson était bien, ça vous posait un homme.
Ouais, vous aviez la carte.
Mais je dis ça sans rire, Maxime. Mmh. C'est vrai.
Oui, oui.
C'était un mot de passe. J'ai vu Maxime, ça voulait dire, tu es.
On voit où t'es. T'es un gars, voilà.
On a compris. C'est vrai que vous allez nous dire ce que vous pensez de l'album de Maxime, hein, on va l'appeler Maxime.
Mais non, mais je trouve que cette phrase qu'il a trouvée, qui est le titre de son album...
Paraître ou ne pas être.
Eh ben, c'est extraordinaire, c'est de ces phrases qui vont rester toujours, parce que c'est vraiment un résumé de notre société, un condensé, c'est du Nestlé. Mmh.
Vous êtes beaucoup parlé, je crois que vous téléphoniez pendant l'écriture de cet album, Maxime Le Forestier.
Ça nous est arrivé, souvent, oui, pour...
Mais qu'est-ce que vous disiez? Vous lui disiez, j'y arrive pas.
Bien sûr.
C'est ça? C'est comme ça que ça
t'en
se passe?
T'en es où, toi? 6. Oh la vache, moi 4.
On parle du nombre de morceaux, j'imagine.
Oui,
du nombre de titres.
Ça, c'était souvent, mais c'est difficile d'écrire des chansons quand même.
Ouais. Oui, bien sûr. Et il y a une chanson qui résume tout ça, notre amitié. C'est une chanson d'Eddie Mitchell qui s'appelle La Tribu.
Ouais.
Parce que les chanteurs, les auteurs-compositeurs, on est liés par quelque chose qui nous dépasse un peu, qui fait d'admiration et d'amitié. Et que ce soit avec Francis Cabrel, ouais, avec Julien Clerc, avec Véronique Sanson, tout, on est liés par un truc, Eddie Mitchell et tout. Il y a un truc, on est content de se voir, on est des amis sans vraiment se voir beaucoup, mais on est liés.
Mmh.
Hein?
Tout à fait, oui. En plus, entre nous et Cabrel et Zazie, il y a l'aventure Solancy qui a été très importante,
oui, je trouve.
Et puis les Enfoirés, j'imagine aussi, où vous retrouvez.
Et puis les Enfoirés, oui. C'est
mais alors, c'était bien Solancy parce que On avait des loges séparées, il y avait d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons.
C'était mieux ça.
Et Francis me disait, bon, viens, on va aller chez les pintades.
Chez les pintades. Ah oui, attention, hein, faut pas dire ça aujourd'hui, il va être accusé de sexisme.
Ah bah non, on va en prison direct.
Ah bah là, maintenant, c'est comme
mais
ça.
Mais moi, j'aime la tôle.
Là où il y a les cadors. Hein. Où ils n'y sont pas d'ailleurs. Vous avez une préférence dans cet album, Alain Souchon?
Ah bah non, je suis franchement... je suis ébloui par la phrase. C'est important, une phrase dans une chanson. On me le dit tout le temps avec ma chanson, Claudia Schiffer. On va lui ramener sa phrase dans 10 ans.
Ouais. J'ai vu ça que vous. Alors, c'était pas un reproche, mais vous disiez faut faire attention quand on écrit une chanson qu'elle ne soit pas trop datée par des noms propres.
Oui, moi, j'ai une passion pour Foule Sentimentale. C'est l'hymne de cette
génération.
Et des générations d'après. Ouais. Mais ma crainte, c'est que dans 10 ans, on ne sache plus qui est Paul Lucilitzer et qui est Claudia Schiffer.
Ah, bah oui, moi, je le sais. Déjà, là, je dis Kim Kardashian.
Ah, bah ah oui, voilà. Quand vous êtes
en Kim Kardashian.
Voilà, c'est faut faire évoluer.
Sur scène. Et vous, on pourra aller vous voir sur scène.
Mais justement, après, il faut que je te parle. Il faut que tu me trouves une rime pour après. On est Kim Kardashian. On peut le sous-dire, plus personne ne sait qui c'est. Alors il faut que tu trouves un truc en nom. Un truc
on va
chercher. Hein.
Oui, bah, je vais chercher, évidemment. Je te dois bien ça.
Eh bah, tiens, on va mettre une pause, on va réfléchir à cette rime en. Et puisque vous l'avez demandé, tiens, quelque chose qui vous résume.
Moi de la rue où je suis né, mais nos sens sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine, différents individus. De la même tribu, on a quelque chose.
Voilà, et là il y avait tout le monde. Il y avait Cabrel, il y avait Renaud, Julien Clerc. Ce qu'on va faire, oui, c'était sympa. Donc on va marquer une petite pause. Vous retrouvez, on va écouter le reportage que vous avez souhaité, Maxime Le Forestier, sur tout le travail que fait le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix auprès des femmes violées au Congo, grâce notamment au professeur Cadière qui est en Belgique. Et puis on va continuer à passer. Il nous reste plus que 20 minutes ensemble.
Ça va vite.
Avec Alain Souchon, votre invité, Maxime, à tout de suite.
Dans le soir, en disant mes mal. Sont encore au bord. Moi je t'ai largué, classé. Elle était bouche bée. Et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ses nouvelles pour d'âme, de son insert mon gars.
Le journal inattendu de Maxime Le Forestier avec son invité Alain Souchon.
Les arts.
Faire. Le journal inattendu sur RTL, avec Maxime Le Forestier et Vincent Parisot.
En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mange mon salade, en bas là-bas, tout.
En bas là-bas, Maxime Le Forestier, je crois que c'est une chanson que vous avez entendue un jour à l'île Maurice en voyant gratter un vieux marin mauricien qui grattait sa guitare.
Tout à fait, il était pas vieux, mais il était marin.
C'est déjà ça.
Et ça a été une découverte de ce genre de 6-8 où on divise la mesure par 2 et par 3 et puis ça fait rouler les hanches. Quoi. Mmh.
Et donc c'est une chanson traditionnelle mauricienne au départ?
Non, pas traditionnelle. C'est une chanson qui a été écrite par un ségatier qui s'appelle Claudio Verarago, qui est toujours de ce monde d'ailleurs, qui a fêté ses 50 ans de carrière il n'y a pas longtemps. Et qui a eu deux coups de chance dans sa vie, en bas là-bas, et un tube monstrueux dont on n'a aucune connaissance, mais qui était côté indien.
D'accord.
Il a fait une,
et là-bas, il a fait un carton.
Il a fait une musique pour un film de Bollywood, et c'est devenu...
Des millions d'exemplaires.
Des millions d'exemplaires. Ouais. Et il a eu l'intelligence de faire un studio à Maurice, dans lequel sont... enregistrer beaucoup de musique mauricienne.
Alors, vous avez souhaité un reportage, Maxime Le Forestier, sur un homme et sur ce qu'il fait, le professeur Guy Bernard Cadière, en Belgique, qui régulièrement va à l'hôpital de Panzi, à Bukavu, au Congo, l'hôpital du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, que vous connaissez aussi très très bien. Dans cet hôpital, on répare les femmes de ce pays victimes de viols. Je vous propose d'écouter le reportage, on en parle tout de suite après, reportage de notre correspondante à Bruxelles, Caroline N.
Chaque jour, depuis 20 ans, 10 victimes de viol se rendent à l'hôpital Panzi. Le viol comme arme de guerre que subissent des femmes, des fillettes et même parfois des nourrissons. À Panzi, l'objectif est de les reconstruire, les réparer, tant au niveau chirurgical que psychologique.
Nous essayons de les soutenir, de les orienter, de les accompagner dans leur souffrance et nous essayons de rendre leur souffrance en joie.
Pendant tout leur parcours de soins, elles sont accompagnées par des mamans chéries. Mamie, infirmière de formation, et l'une d'entre elles, elle raconte l'horreur de la situation.
On a reçu une femme qui est revenue plus de 3 fois. Elle a été reviolée. On soigne, on traite, on prend en charge psychologiquement. Elle rentre encore au village, elle est encore reviolée, elle revient encore. Ça devient maintenant un cycle vicieux.
L'équipe médicale de Denis Mukwege est composée de gynécologues, de chirurgiens et d'ORL. Depuis 2012, 3 fois par an pendant une semaine, ils sont aidés par des médecins belges. À leur tête, le professeur Guy Bernard Cadière, chef du service de chirurgie digestive à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, un service spécialisé dans la chirurgie minimale invasive.
C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir largement l'abdomen, eh bien, on utilise une petite caméra et des petits instruments.
Allier cette technique avec la reconstruction gynécologique, c'est l'idée du professeur Mukwege. Il la soumet à son confrère belge qui n'hésite pas à se lancer dans le projet. Et cette pratique inédite fonctionne.
On voyait ces femmes et ces femmes nous disaient « Docteur, c'est la première fois que je dors dans un lit sec ». Et donc on avait reconstruit et le vagin, et le rectum, et la vessie.
Grâce à cette technique, des milliers de femmes ont pu être soignées. Mais l'hôpital ne s'arrête pas là. La structure les aide à se réinsérer dans la société, mais aussi à obtenir une réparation judiciaire.
On va se faire en sorte que vous ayez gain de cause. Et on met des avocats à disposition. Et dans certaines situations où ça a été des viols collectifs, comme à certains moments on a eu ça, on a fait en sorte que des marches s'organisent sur la région et pour finalement faire un procès global avec tous les gens qui étaient impliqués dans ces viols.
Ça a marché ?
Et ça a marché.
L'hôpital de Panzi s'est depuis développé. Il a aujourd'hui 5 blocs opératoires. De plus en plus de médecins sont formés. Car malheureusement, les massacres, eux, ne faiblissent pas.
Voilà, reportage signé Caroline N. Comment vous avez été sensibilisée à ce travail réalisé par Denis Mukwege, par ce chirurgien de Bruxelles, Guy Bernard Cadière ?
J'ai rencontré Guy Bernard Cadière il y a plus de 30 ans. Il était étudiant en médecine. Et il jouait du saxophone avec Victor Laszlo.
Ah bah alors effectivement, on est loin de ce deuxième.
Oui, alors je me souviens d'une répétition de l'émission de Jacques Martin, où on sort, on va au même bistrot avec Victor Laszlo, parce qu'on était à la même maison de disques, et elle me dit, je suis emmerdé parce que mon saxophoniste n'était pas là aujourd'hui, j'espère qu'il sera là demain pour le tournage. Et je lui dis, en vieux routier, je lui dis, écoute, tu le vires. Et puis t'en prends un qui est à l'heure, à la répétition et au tournage. Elle me dit, mais je peux pas le virer, mais aujourd'hui il avait un estomac. Et là je me suis dit, ah, quoi ? Bah oui, il opérait un estomac. Et le lendemain, j'ai vu arriver Guy Bernard Cadière en Porsche, avec un dérapage contrôlé qui s'est garé devant l'Empire, qui a sorti son sax et qui a joué avec Victor Laszlo. Et depuis, c'est resté un ami. Donc, il m'a, parce que ça fait longtemps qu'il s'intéresse au tiers monde
et au sort des femmes violées.
Il m'a emmené au Cambodge, emmené un peu partout. Il m'a même emmené dans sa salle d'opération pour le voir opérer.
Et il vous a fait rencontrer celui qui a été prix Nobel de la paix il y a un an, le docteur Mukwege, celui qui répare les femmes.
Tout à fait, qui est un homme. C'est un peu. J'ai croisé l'abbé Pierre une fois, je lui ai serré la main, Denis Mukwege, c'est un peu le même genre, quoi. Ouais. On a l'impression de croiser un être particulier.
Et je crois que lorsque vous êtes rencontré, il vous a confié que cette chanson.
Est-ce que les gens naissent qu'au endroit, à l'endroit ?
Cette chanson, c'était la chanson qu'il préférait. Avec sa femme,
oui,
et quelque part.
Oui. Depuis, chaque fois qu'il y a, il y a un concert tous les ans à l'hôtel de ville de Bruxelles, en présence de Denis Mukwege, et tous les ans, j'y vais avec mon fils et je lui chante sa chanson.
Vous parliez des formules, des phrases.
Oui, ça c'est une formule.
Voilà. Est-ce que les gens naissent égaux à l'endroit où ils naissent ?
Oui, parce que c'est quelque chose qui nous turlupine. Enfin, moi, depuis toujours, depuis vraiment longtemps, étant donné que je suis né dans une famille plutôt agréable à vivre, je me disais, quelle chance j'ai, il n'y a que des bouquins et des choses intelligentes chez moi. Et quand on naît dans un autre monde où il n'y a que rien du tout, va jouer dehors, va, regarde le foot, ne nous fait pas chier. Eh ben, il y a une telle différence que je me dis vraiment, et sa phrase, elle résume ça. J'ai fait une chanson là pour mon prochain album où je parle de ça encore.
Ah bah tiens, votre prochain album, on va en parler dans un instant.
Si c'était
un
très bon disque, ne veut pas.
Ah ben, on va essayer quand même.
Mais ils me disent qu'il faut pas en parler.
À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Maxime Le Forestier avec Vincent Parisot sur RTL. Le journal inattendu de Maxime Le Forestier avec son invité Alain Souchon.
Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent. Des jeunes filles parfumées, des bouquets de pleurs, des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite.
L'amour en fuite, chanson d'Alain Souchon de 1978, bande originale du film de François Truffaut. Extrait du volume 2 de Souchon dans l'air, sorti l'an dernier. C'est vous qui aviez choisi ce titre,
Maxime ? Non, c'est ses enfants.
Ah, encore et toujours les enfants.
Souchon m'a téléphoné en me disant « il faut que tu chantes l'amour en fuite ». J'ai dit « bon ».
On vous a senti...
J'étais flatté.
Oui.
D'être chanté par Maxime, c'est flatteur, c'est agréable. Mmh. Non, mais ce truc, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ce disque, mais c'est pas mes enfants, on leur a demandé de s'en occuper, mais parce que moi j'avais d'autres trucs à faire, mais c'est flatteur. Bien sûr. Que des gens que j'admire dessus qui chantent mes chansons, c'était agréable.
Tiens, en parlant de gens que vous admirez, vous, je le sais, Maxime Le Forestier, j'imagine évidemment Alain Souchon, il y a évidemment ce monsieur.
Les gens de mon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'heure de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choix, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson.
Alors évidemment, Maxime Le Forestier, Georges Brassens, c'est une partie de vous-même, c'est une partie de votre vie. Pendant des années d'ailleurs, vous avez parcouru les routes pour interpréter ces titres. 171 chansons de Brassens que vous avez interprétées.
Tout à fait, que j'ai interprétées en public. Il y a deux choses. Je considère que Brassens, c'est un peu pour la chanson ce que Bach est pour la musique classique, une référence, une borne, et qu'il méritait son Glenn Gould, ouais. Et que j'étais content de pouvoir le faire. Et puis deuxièmement, j'ai essayé de le faire en studio, mais je me suis emmerdé très vite et je me suis aperçu que les chansons de Brassens, il fallait les chanter à quelqu'un. Donc j'ai décidé de faire ça en public.
Alors, je suis allé le voir à Blois.
Ah oui, Brassens sur scène.
Non,
Maxime. Maxime.
Voir, c'était bien, il avait un cahier. Il disait aux gens de voter, donnez-moi un numéro. Alors les gens disaient 25. Hop, il tournait son cahier.
Comme au loto.
Page 25, c'était la chanson, allons-y. Ah là là.
Direct. Sans même réaccorder la guitare.
Voilà. Ah, tu faisais ton cahier.
Tout à fait, oui. C'est marrant parce que Gibraltar, le secrétaire de Brassens, qui est venu aussi me voir, m'a dit, c'est fou quand je pense au mal que Georges se donnait pour faire l'ordre de ses chansons. Toi, tu chantes dans n'importe quel ordre, ça marche.
Et Jean-Jacques Goldman m'avait dit, c'est marrant parce qu'il respecte vraiment. On lui dit 26, il fait la 26. Moi, je ferais mon ordre que j'ai raté. Disons, là, voilà, la 26, voilà. C'est là.
Personne va aller vérifier ce qu'il y a dans le cahier. Bon, Alain Souchon, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Le nouveau single est attendu à la fin de l'été.
Ah oui, oui, oui.
Et il a un titre, hein.
Oui.
Et on peut avoir une...
Mais c'est un secret, vous êtes marrant.
Non, mais c'est juste
ça
pour savoir.
Ça s'appelle
Am 50s. Ah, génial.
Parce que je suis arrivé sur la Terre, cette planète merveilleuse, dans les années 50. Enfin, non, 40, mais j'ai découvert le monde. Allez. J'ai commencé à être un petit peu intelligent et un petit peu voir les choses autour de moi dans les années 50. Donc, je raconte ça. Et... Alors, toi, t'es beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus jeune. Bon.
Donc, Am 50s. Après les vacances,
oui.
L'album dans la foulée, tout est prêt. Combien de chansons? 10.
Le moins possible, 10.
Comme Maxime.
Oui.
Pourquoi le moins possible?
Mais parce que vous ne vous rendez pas compte comme c'est difficile de faire des chansons. Ouais. On peut faire des chansons au début, on les fait comme ça, blablabla. Mais après, les gens vous jugent, ils disent « Ah ben lui, Maxime Le Forestier, attends, il a fait ça, on va voir ce qu'il fait maintenant. Ouais. » Et alors, ils le jugent par rapport au grand succès qu'il a eu avant. Tout ça est difficile, et c'est pas commode. Ouais. Donc voilà, bon, on va pas se plaindre, on a un métier extraordinaire.
D'ailleurs, un métier absolument formidable qui fait que quand on est un artiste, on prend pas sa retraite. C'est pas quelque chose qu'on imagine.
J'aimerais bien partir avec Sylvain Tesson traverser la France à pied.
Ah bah tiens.
Plutôt que de chanter.
On va lui proposer.
Mais j'aime bien chanter.
Merci beaucoup, en tout cas, Alain Souchon. Merci, Maxime Le Forestier, pour ce journal inattendu. Paraître ou ne pas être, le disque, la tournée va commencer en même temps que celle d'Alain Souchon, quasiment. Vous serez le 3 octobre à Rennes et à Paris, je vous rappelle, 14, 15 et 16 novembre. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle tournée avec ce disque et on vous dit bonne route.
Merci beaucoup et merci Alain.
Ben merci Maxime, j'étais invité de Maxime.
Ben oui, c'est cool.
Le roi est pas mon cousin là. Hein.
Et tout de suite sur RTL, Jean-Alphonse Richard confidentiel, aujourd'hui, Lady Di.
Entre les gouttes et va les belles.
RTL.
Le journal inattendu.